Premier dimanche de l'Avent de cette nouvelle année liturgique, frères et sœurs, les amis, où j'ai choisi, tout au long de ce qu'a pu être ma réflexion sur les lectures qui nous sont proposées, de méditer avec vous sur la seconde lecture, la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Parce qu'il y a un verset qui m'a longuement interrogé et qui, me semble-t-il, vaut la peine de s'y arrêter. Et c'est le verset suivant que je vous cite. Le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. Alors, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Bon, le salut, nous savons ce que c'est, et qu'il est plus près de nous maintenant, ça paraît presque un paradoxe, puisque du temps du Christ, déjà les apôtres et ceux qui suivaient le Seigneur attendaient un royaume nouveau, d'être débarrassés de l'occupant. Et le Messie, nous l'avons assez médité les dimanches précédents, était non seulement attendu, mais on a laissé beaucoup sur le chemin de la déception, puisque c'est ce que nous avons entendu dimanche dernier, le Seigneur n'a pas envoyé ce salut durant sa vie terrestre dans le pays qu'il avait choisi de vivre. Alors néanmoins, cette phrase de saint Paul me semble quand même toujours vraie. L'un des articles de notre foi tient que l'histoire, contrairement à ce que on peut entendre dire ici ou là, n'est pas un perpétuel recommencement, mais tout au contraire, que le projet de Dieu avance irrésistiblement. Alors je pense que c'est ce point-là sur lequel il faut nous arrêter quelques instants, parce que à regarder le monde, on a l'impression qu'il va de mal en pis, et que du côté de Dieu, on se pose plutôt la question de savoir qu'est-ce qu'il fait, plutôt que d'annoncer que le projet de Dieu avance irrésistiblement. Mais néanmoins, ce dessein bienveillant de Dieu est plus proche et plus avancé qu'hier. Nous devons tenir dans la foi qu'il est en train de s'accomplir, qu'il progresse certes très lentement, mais sûrement. Alors je crois profondément que oublier de professer cela, d'annoncer cela, c'est oublier un article essentiel de la foi chrétienne. Autrement dit, les chrétiens n'ont pas le droit d'être tristes. La tristesse est une arme du démon. Ils n'ont pas le droit non plus d'être moroses, d'avoir une sorte de spleen, de vague à l'âme. Parce que chaque jour, comme nous venons de l'entendre, et comme je viens de le citer, le verset « Le salut est plus près de nous », comme le dit saint Paul. Nous pouvons mettre en parallèle ce verset à l'acclamation que nous faisons au cœur de l'Eucharistie. Lorsque le prêtre va dire « Il est grand le mystère de la foi », nous répondons « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue. » Nous attendons ta venue. Alors, est-ce que nous l'attendons vraiment? Et si nous l'attendons, ça renvoie à notre attitude, qui est d'abord d'être des veilleurs, c'est du reste un des thèmes du temps de l'Avent comme du temps du Carême, et que le carburant qui doit alimenter le fait de veiller, C'est certainement pas le sommeil, hein. Ça c'est sûr. C'est bien ce que dit aussi cette épître de saint Paul aux Romains. Ce n'est pas le moment de dormir, parce que nous avons la chance de connaître le projet de Dieu, qui est le parachèvement de l'ensemble de sa création, et que par notre attitude, nous pouvons courir le risque de retarder ce dessein bienveillant. Notre inaction, notre paresse, notre manière d'être toujours assisté, notre sommeil, pour reprendre le terme de saint Paul, a des conséquences, et ça nous devons en être bien conscients, sur l'avancement du projet de Dieu. Laisser tous nos talents, toutes nos capacités, toute notre énergie, et pourquoi pas toute notre foi, en sommeil, peut compromettre gravement le projet de Dieu et son avancement. Et comme le dit si bien saint Paul, que je cite à nouveau, « La nuit est bientôt finie et le jour est tout proche. » Alors, à la suite de ces quelques réflexions que je viens de partager avec vous, vous pourriez me dire que je suis, ou que le chrétien que nous sommes bien prétentieux de nous donner une importance. Comment est-ce que moi, petit vermisseau en définitive, puis-je porter atteinte ou compromettre l'avancement du projet de Dieu? Voilà une question qui, me semble-t-il, est intéressante. Eh bien, je dirais que ce qui fait la noblesse et la grandeur de chacune de nos vies, pour ne pas dire la gravité, c'est notre conduite. Du reste, c'est ce que dit cet épître aux Romains. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans ripaille ni beuverie, ni orgie, ni débauche, sans dispute ni jalousie. Ces choses-là sont des activités, bien évidemment, des ténèbres. Alors, il est vrai, et je pense que c'est très important aussi dans l'éducation des enfants, à rappeler qu'il y a des manières chrétiennes de vivre et de se comporter, et des manières qui ne méritent pas ce qualificatif. Il y a des activités de ténèbres et des activités de lumière. Alors là où il faut rester toujours humble et modeste, je vous y invite du reste assez souvent, ça ne veut pas dire que nous chrétiens nous sommes les meilleurs et que nous avons toujours eu, loin de là, les comportements dignes de notre baptême, et qu'à l'inverse, les non-chrétiens n'auraient pas des comportements dignes de l'Évangile. Du reste, la phrase est très claire. Paul ne dit pas « rejetons les activités des ténèbres et choisissons les activités de lumière ». Il dit « rejetons les activités des ténèbres et revêtons-nous pour le combat de la lumière ». Alors, il me semble qu'il y a là deux points à réfléchir. Le premier, c'est que nous avons un choix à faire. Et ce choix, nous devons le refaire chaque jour. Il n'est pas définitif. Un choix qui peut, bien sûr, et je vous le dis aussi assez souvent, prendre l'allure d'un véritable combat. Et bon, Dieu sait que le monde d'aujourd'hui ne manque pas d'exemples, hein. Les combats de société, tout ce qui se passe au niveau la morale familiale, de tout ce que nous entendons aujourd'hui, c'est un véritable combat. Sans parler d'un autre combat aussi, qui est peut-être plus personnel, mais très important, qui est le combat du pardon, si difficile à donner, mais aussi le combat intérieur, le refus de toutes sortes de compromissions, le refus de rechercher toujours à se mettre en avant, à être pistonné pour arriver à telle ou telle position dans la société, etc. Non. Et deuxième point, donc un choix très important à faire, et le deuxième point, c'est que revêtir pour nous le combat de la lumière, Paul prend l'image d'un vêtement, donc nous sommes ici, bien évidemment, une fois de plus, projetés, comme je vous le rappelle également souvent, dans le baptême. Revêtir les activités des ténèbres et revêtir le combat de la lumière, c'est certainement une allusion à la célébration du baptême. Surtout quand le baptême est donné par immersion. Être plongé dans le baptistère, le baptisé va rejeter les vêtements anciens pour revêtir le vêtement neuf qui est celui du Christ, vêtement immaculé. Alors, frères et sœurs, voilà un beau programme en conclusion pour ce temps de l'Avent, où, comme chaque temps liturgique, nous tentons de prendre des résolutions. Eh bien, prenons la résolution de revêtir les bonnes armes, comme nous le dit saint Paul. Ils sont la justice, la pratique du pardon, la recherche de la vérité, l'humilité. Voilà des résolutions qui peuvent mettre notre cœur et peut-être aussi l'ensemble de tout notre être dans une attitude de profonde humilité d'abord, mais aussi de profonde reconnaissance pour nous retrouver au pied de la crèche, à accueillir celui-là même qui est la lumière, lumière venue nous visiter. Amen.